Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir en compagnie d'Éric, de recevoir un éminent expert de la politique internationale en la personne d'Yves Pozzo-Di Borgo. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Yves Pozzo-Di Borgo qui a été longtemps sénateur et ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat. Il a donc été plongé au cœur des relations internationales. Et nous allons traiter du thème suivant, l'escalade est-elle inéluctable au Moyen-Orient? Et nous allons d'ailleurs déborder aussi sur l'Ukraine. Alors justement, cette escalade est-elle inéluctable?
Je me souviens, quand j'étais parlementaire, j'étais aussi le vice-président de la Commission des Affaires européennes. Et j'avais été invité, je crois, ce titre d'ailleurs, à une réunion de l'AIPAC à Washington. Vous savez, on n'était que trois parlementaires européens d'ailleurs. Vous savez, l'AIPAC est une association de lobbying pro-israélien qui est très puissante, hein, qui a un rôle très important. Ça avait été une réunion très intéressante. Hein. On avait des réunions avec le Mossad, avec la CIA. Il y avait à l'époque Ehud Barak qui représentait Israël. Il y avait tous les membres de l'AIPAC. Et puis il y avait aussi Biden qui était le vice-président d'Obama. Et là, pour les 3-4 jours qu'on a passés, il y avait une pression de la part d'Israël de vouloir bombarder, ils avaient peut-être raison, toutes les structures de développement, du nucléaire en Iran. Et puis à la fin de cette réunion, Biden est intervenu, il a dit non, vous ne bombardez pas, il a été très net. D'ailleurs, comme beaucoup de présidents américains, ils n'ont pas voulu que l'on bombarde l'Iran. Et d'ailleurs, à l'époque, Obama avait commencé à négocier avec l'Iran, et puis il y a eu cet accord qui d'ailleurs a été un très bon accord entre l'Iran et les USA, puis d'autres pays qui est signataire, dans laquelle l'Iran s'est engagé à ne pas aller vers le nucléaire militaire, ce qu'elle a toujours respecté, et en même temps ils avaient un allègement des sanctions, et tout se passait bien. Et ce qu'on n'a pas compris, on le sait maintenant pourquoi, mais en 2018, quand Trump est arrivé, il a cassé cet accord brutalement. Et il a relancé les tensions avec l'Iran, alors que l'accord était respecté aussi bien du côté des pays qui est signataire que de l'Iran, qui respectait rigoureusement cet accord. Il n'y avait vraiment aucune raison de casser cet accord. Cette rupture de 2018 de cet accord explique un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui, d'après moi. Alors après ça, d'ailleurs, il a fait assassiner d'ailleurs le chef des services secrets, je crois, iranien, enfin j'ai plus son nom, qui a été d'ailleurs une très grosse coup pour les Iraniens qui ont fait une fatwa contre Trump et le patron de la CIA à la réunion des sénateurs des républicains et démocrates qui a suivi l'offensive en Iran il y a peut-être un mois, a annoncé qu'en fait, il savait très bien qu'il avait fait l'attentat contre Trump, que c'était en fait le successeur du patron des services qui avait été assassiné en 2020, qui a d'ailleurs lui-même a été tué lorsque Khamenei a été tué, et qu'ils ont arrêté le lendemain même de l'attentat, un Pakistanais qui avait été chargé d'organiser ça, et qui est en procès d'ailleurs à New York. Actuellement, le procès public est à New York. C'est une information qu'a donnée le patron de la CIA à l'époque. La France, je croyais juste, j'ai eu un petit écho une fois sur une radio, mais personne n'a repris ça, c'est quand même un élément important. Voilà, c'est juste pour éclairer un petit peu la tension qu'il peut y avoir entre Israël, l'Iran et puis les USA. Alors, c'est vrai qu'on a un problème avec Trump. Trump a été le premier président qui a, en fait, par rapport aux autres présidents américains, a accepté, si vous voulez, que l'on bombarde l'Iran. Bon, c'est vrai que cette affaire n'est pas une affaire américaine, puisque les Américains, qu'est-ce qu'un intérêt ont-ils à s'aborder l'Iran? Bon, c'est vrai qu'ils peuvent s'amuser à contrôler les énormes réserves de gaz et de pétrole qu'ont l'Iran, notamment cette énorme poche de gaz, mais qui est partagée avec le Qatar. Donc, et en même temps, c'est se mettre à dos alors que Trump a bien compris que le monde avait changé, il a mis du temps à le comprendre, que la gouvernance unipolaire américaine était finie et qu'il y avait maintenant un phénomène que même en Europe on refuse de regarder, qui est le phénomène des BRICS. Il faut bien comprendre que les BRICS, si vous voulez, c'était quelque chose de très important qui se créait. Et moi, je l'ai compris ça, je raconte un peu mon expérience. J'étais à l'époque aussi, dans le cadre de mes fonctions sénatoriales, membre de l'Union parlementaire mondiale. C'est-à-dire, c'est tout le... qui se réunit régulièrement. Pendant 13 ans, j'étais membre de cette assemblée parlementaire qui se réunit régulièrement des semaines entières avec le matin un travail en commission et puis le soir l'assemblée générale. Et ma dernière réunion était à Dhaka, au Bangladesh. C'était en avril 2017. Et je me souviens très bien, déjà j'avais ça perçu cela dans plusieurs réunions. Et chez là, j'ai bien compris ce que c'était les BRICS, c'est le monde qui était en train de se façonner. C'est qu'il y avait d'un côté le monde occidental, les Américains, les Européens, avec l'Australie et puis le Japon qui les suivaient, et puis le reste du monde, c'est-à-dire en fait 1 milliard de personnes contre 7 milliards. Et il faut bien savoir, quand je me suis mis à analyser les choses, je me suis rendu compte que les 7 milliards de personnes, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, l'Indonésie, enfin les pays africains, les pays d'Amérique latine, tous ces pays-là avaient été sous domination coloniale des Occidentaux. D'abord, domination coloniale espagnole, notamment pour l'Amérique latine, domination coloniale anglaise avec le Commonwealth, et domination coloniale française, qui était très importante, puisqu'on était, nous aussi, bien en Afrique, en Asie. Et que tous ces pays, petit à petit, ont pris conscience d'eux-mêmes, ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, mais ils ont pris conscience d'eux-mêmes, se sont développés, et sont devenus des pays non seulement riches et puissants, mais qui sont des pays maintenant qui sont en compétition, plus qu'en compétition, avec le monde occidental. Et là, à cette réunion à Dhaka, j'ai bien compris cette coupure. Et je me souviens, j'avais à l'époque, on était répartis par groupes, c'est-à-dire il y avait le groupe Amérique latine, le groupe européen, le groupe asiatique, enfin il y a plusieurs groupes, et on fonctionnait comme ça pour le travail quotidien. Et je me souviens, j'avais vu les Russes, je leur ai dit, mais pourquoi vous n'êtes pas avec nous les Européens? Et je me souviens encore, le président enfin, de cette délégation me dit, mais monsieur Pozzoli-Borgo, vous ne vous connaissez pas le monde. Vous ne vous rendez pas compte à quel point le monde est en train de se couper entre les Occidentaux et le reste du monde. Et nous, on préfère être avec les pays d'Asie centrale et d'autres pays qu'avec l'Europe. Alors que pourtant, on est dans une logique de vouloir faire la grande Europe. C'était à l'époque, c'était un peu la logique de Poutine, de vouloir faire une Europe très unie avec la Russie et le reste du monde. C'était son premier discours d'ailleurs en 2001. Et là, j'ai bien compris les choses, si vous voulez. Et on a mis beaucoup de temps à comprendre cela. Et Trump lui-même, moi j'avais des amis qui étaient proches de lui pendant la campagne, ne voulait pas admettre cela. Puis il a commencé à l'admettre. Et je crois d'ailleurs que la première réunion qu'il a fait avec le président Poutine en Alaska, c'était en fait, bien sûr, pour l'affaire de l'Ukraine. C'était bien sûr aussi une affaire très importante sur l'affaire du nucléaire, parce qu'il faut savoir qu'en dehors du texte du traité de 68 sur la non-prolifération des armes nucléaires, il n'y a plus aucun traité qui protège le monde, donc on est vraiment dans une jungle. Et puis il y avait un troisième sujet qui était aussi, il avait besoin, Trump, de rencontrer la Chine, et celui qui est un peu un opérateur important des BRICS, c'est le président Poutine. Et je crois que cette réunion a été faite ça. Par la suite, d'ailleurs, il a rencontré le président chinois, et il semblerait que la rencontre s'est bien passée, puisque un journaliste lui a dit, mais comment s'est passée la rencontre entre vous et le président chinois de 1 à 10? Et Trump a répondu 12. Bon, ça voulait dire que ça s'est bien passé. Mais en même temps, là, on se rend très bien compte, s'il voulait que Trump a compris que les BRICS existaient. Il y a d'ailleurs, et dans l'affaire de l'Iran, on a bien vu d'ailleurs que les BRICS étaient très importantes. Il y a eu un problème avec l'Inde, qui n'a pas vraiment été dans une logique, des BRICS normales, puisqu'ils ont été plutôt prudents sur cette affaire, ils n'ont pas voulu se couper d'Israël et des USA. Ce qui implique d'ailleurs que les BRICS ont demandé qu'il y ait une réunion le 13 mai qui va avoir lieu, très importante en Inde, que nous ici en Europe on ne suit pas malheureusement, enfin on n'a pas compris que le monde avait changé, et justement où ils vont aborder ces sujets-là. Et j'en reviens au fait qu'on a un véritable problème d'analyse en Europe de cette affaire des BRICS par rapport au monde occidental. Il est sorti il y a une dizaine d'années, près d'une, je ne sais plus quelle université, deux chercheurs, dont des anciens marxistes, qui ont sorti la thèse des empires. Et ce qui est très surprenant à Paris, moi je vois très bien, j'ai assisté à plusieurs conférences, notamment de haut état-major de l'armée, enfin des anciens, parce que les nouveaux, non, je crois, n'ont pas le droit de parler. Et ils évacuent les BRICS. Pour eux, les BRICS n'existent pas. Il n'y a que ce qu'on appelle les empires. Mais cette thèse des empires est une thèse, j'allais dire, de réseau. J'allais dire des réseaux américains, CIA, enfin tous ceux qui réfléchissent, qui avaient d'ailleurs, c'est plus les Berezinski et les Kissinger, mais ceux qui l'ont représenté. Et nous, on parle des empires. Non, il y a bien sûr les empires. Maintenant, c'est le problème, c'est que le monde est coupé en deux et on ne veut pas le voir. Et on ne veut pas le voir. Et d'ailleurs, ce monde-là des BRICS est en train de plus en plus puissant. Ce monde-là, d'ailleurs, économiquement, a largement, l'an PIB, a largement dépassé l'ensemble du PIB européen, américain, et voilà. Et donc, on peut difficilement ne pas analyser les choses avec cette logique-là. Alors, il y a, je reviens, j'étais un peu long pour expliquer tout cela, et je reviens à cette affaire iranienne, et c'est là, c'est vrai que Trump a été atypique avec tous les présidents précédents, il a décidé d'accompagner les Iraniens dans leur fantasme de pouvoir à tout prix se débarrasser de l'Iran.
Et justement, vous qui avez expérimenté de très très près tous ces dirigeants, leurs pratiques, leur façon de décider. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet article du New York Times qui décrivait la scène stupéfiante à la Maison Blanche où Netanyahou faisait face à Donald Trump et présentait son souhait d'une attaque de l'Iran conjointe israélo-américaine et où le Radcliffe, le patron de la CIA, a employé, je crois, un terme très très cru. C'est du bullshit, je crois qu'il a dit. Même Rubio était contre et Trump passait outre.
Mais le problème de Trump, et c'est ce que me dit, bon, j'ai quelques contacts aux États-Unis là-dessus, et puis des gens plutôt proches d'ailleurs de son système, c'est que d'abord dans sa famille, il faut comprendre qu'il est, autant me dit-on, sa Mélania n'était pas dans une logique de folie anti-iranienne comme les autres, mais sa fille Ivanka et sa fille chérie, il est fasciné par elle. Et elle est mariée avec la famille Jared Kushner, enfin, qui est un ami de Netanyahu, qui fait des affaires en Israël d'ailleurs, et qui lui est très pro défense de la stratégie Netanyahu. C'est d'ailleurs lui, c'est un truc alors, complètement fou pour une démocratie que Trump ait nommé son gendre et son ami de golf, si vous voulez, pour gérer tout cela. Ça me fait penser d'ailleurs à la période à l'époque du président qui était sous, enfin l'époque de Giscard, le président américain, comment s'appelait-il, qui était le éleveur de cacahuètes,
Carter,
oui. Où pratiquement sa femme était dans toutes les réunions importantes, stratégiques, oui. C'était caricatural, enfin. Et là, on a l'impression vraiment que Trump a laissé la même mise de cette affaire, de cette attaque, de ces décisions d'abord qu'il a prises, et puis de la gestion aussi du dossier, à son gendre et à son ami de golf. On l'a bien vu d'ailleurs dans la négociation au Pakistan, où Vance disait tout se passait bien, et puis arrive Kushner et Witkock, et qui disent « Ah oui, on a eu un coup de fil de Netanyahou, il faut tout arrêter ». Enfin, vous voyez l'emprise très forte de la famille de Trump sur son comportement. Il faut savoir aussi qu'il y a une personne très importante que l'on connaît très peu, qui a été un élément très important de la campagne de Trump, c'était la secrétaire générale de la campagne, qui est devenue secrétaire générale de la Maison-Blanche. Je ne sais pas si c'est le titre exact.
Susie Wiles.
Voilà, c'est ça. Et qui, elle, est énormément proche de Netanyahou et carrément... Enfin,
ah oui.
Donc Trump est accompagné dans ses décisions, d'abord par sa famille, enfin son gendre et sa famille, et puis aussi par des personnes comme elle en qui il a énormément confiance, qui a un poids énorme dans l'administration américaine. Et voilà, et donc je crois que pour décrypter tout cela, parce que moi ce qu'on me dit aussi, que Trump lui-même, c'est vrai qu'il a toujours été, des amis qui l'ont connu d'ailleurs avant qu'il soit président, il l'a connu à New York, et c'est vrai qu'une des raisons pour laquelle il s'est engagé dans la vie politique, alors que c'est un homme d'affaires, c'était qu'il en avait assez de ces guerres américaines. Il voulait vraiment arrêter ces guerres américaines avec tous ces massacres. Et malheureusement, depuis qu'il est là, on se rend compte, en fait, notamment avec cette affaire d'Iran, il a relancé les guerres, et je ne suis pas sûr que ce soit relancer les guerres pour faire la paix. Voilà, et donc cette affaire est une affaire difficile à comprendre. Elle est comprise par l'importance des réseaux d'influence de Netanyahou, de son gouvernement en Amérique, Elle est très importante aussi par l'association AIPAC. Mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de la communauté juive qui sont très interrogatifs là-dessus. Et en plus de ça, ils sont aussi très inquiets de voir la montée en puissance de l'image d'Israël aux États-Unis. Je crois qu'il y a un sondage qui est sorti qui dit que 60% des Américains sont maintenant plutôt pro-palestiniens que pro-israéliens. Et en plus de ça, on se rend compte que ceux qui sont plutôt pro-israéliens, ce sont les générations au-dessus de 50 ans et les évangélistes qui jouent un rôle très important. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans l'investissement de Trump en Iran, il y a aussi le rôle des évangélistes. Et notamment, il y a, je crois, il y a la secrétaire générale qui est très importante, et puis il y a une sorte de gourou évangéliste qui d'ailleurs a pris en main la vie spirituelle de Trump. Elle fait d'ailleurs toute une série d'opérations de prière à la Maison-Blanche. Enfin, ça devient...
Ah oui, il y a une photo édifiante.
Pas que des photos, enfin, on le voit. Oui. Elle enlève le démon aux gens qui sont collaborateurs. Enfin, mais c'est des trucs de fou. Enfin, mais malheureusement, c'est en plein... Tout ça est à la Maison-Blanche, qui est une structure de pouvoir la plus importante du monde, peut-être. Et là, on se rend compte, si vous voulez, que les influences personnelles des personnes sont... Des personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas de titre officiel. Hein, la personne qui s'occupe, l'évangéliste qui s'occupe de la vie spirituelle de Trump n'a aucun titre officiel par rapport à Rubio, par rapport à, si vous voulez, aux patrons de la CIA, qui sont eux institutionnellement des patrons, qui sont très sceptiques là-dessus, même s'ils sont obligés maintenant de suivre. Voilà, et je crois que on a vraiment, là, je pense, un dérapage démocratique important que l'on connaît dans cette maison blanche et puissante. Et je crois que c'est une des raisons de cette... d'avoir accompagné Israël qui en veut toujours à l'Iran. Alors c'est vrai que l'Iran n'est pas un régime que l'on peut souhaiter, nous en France ou ailleurs. Puis c'est vrai qu'aussi dans les discours de l'Iran, il y avait toujours la volonté de vouloir détruire Israël, et je comprends, moi, la crainte et la tension des Israéliens contre l'Iran. Mais de là à faire une guerre comme elle est faite, en plus de ça, vouloir, c'est quand même bien comprendre. Et nous, on connaît très mal l'Iran en France, hein. L'Iran, c'est quand même un grand pays de 90 millions d'habitants, où il y a, je crois, deux fois plus d'ingénieurs qu'en France et qu'en Allemagne.
Et même, ils battent le record de production d'ingénieurs par millier d'habitants.
Et en plus de ça, 70% de ces ingénieurs sont des femmes. Donc, si vous voulez, alors, il y a évidemment un régime qui est contrôlé par les 460 mollahs avec leur famille qui tient ce régime. Il ne faut pas oublier quand même ce régime, lorsqu'il y a eu les élections présidentielles, parce que c'est très étalé comme pouvoir, hein. Il y a le pouvoir religieux, le pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir des gardes. Enfin, c'est un système qui est très difficile à démonter, parce qu'il n'y a pas uniquement Khamenei. On a beau avoir tué Khamenei, le pouvoir reste étalé sur plusieurs structures. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu l'élection présidentielle, il y a quand même eu 20 millions de personnes qui ont voté pour un candidat, je n'ai plus le nom, qui était très radical, qui n'a pas été élu. C'est quelqu'un de plus modéré qui a été élu. Mais c'est pour ça que ce n'est pas aussi simple que la vision que le narratif européen a, un peu influencé par des narratifs militaires, enfin, ou autant ou ailleurs, de dire que l'ensemble des Iraniens ne veulent plus de ce pouvoir. Il y a une partie de ce pouvoir iranien, de ces mots-là, qui tiennent beaucoup de choses. Il y a une partie qui est soutenue. Ce qui ne veut pas dire que c'est la majorité. Moi, j'ai d'autres contacts en Iran où les gens me disent c'est vrai que si jamais il n'y avait plus ce pouvoir, les gens ne pleuraient pas. Au contraire, ils seraient satisfaits. Mais c'est quelque chose où nous, en Europe, on le voit très bien dans les médias, et ça, c'est un des problèmes dans les médias français, c'est le manque de connaissance de ce dossier-là, de ce dossier-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est un journaliste, il me semble, de LCI ou de je ne sais plus, qui lui est sur place en Iran. Il a
oui,
été, je
sais plus, Gavoche.
Oui, qui sur place, qui connaît les choses et qui dit les choses et qui est contesté par des journalistes parisiens qui ne connaissent rien à l'Iran, qui n'y sont jamais allés et qui, en fait, non simplement sont prisonniers du narratif qu'on nous impose là-dessus. Voilà, c'est un sujet complexe. Alors, vous m'avez posé la question de savoir si ça allait durer longtemps. Je suis incapable de vous répondre. Je sais que Trump est quand même inquiet pour ses élections mi-terme, vous savez exactement, il y a les primaires républicaines comme les primaires démocrates pour choisir les candidats qui vont se présenter aux élections de novembre. Et alors on me dit, enfin moi les contacts que j'ai en Amérique, que bon, il y a un phénomène très anti-guerre de l'Iran, enfin les gens ne veulent pas de guerre, hein, parce qu'en plus Trump s'est fait élire en disant plus jamais la guerre, et il y a une fatigue là-dessus, et Trump se rend compte que, alors pour le moment il semblerait que ça n'a pas grignoté le bloc républicain, même s'il y a une réaction négative sur cette guerre en Iran. Mais Trump aussi est inquiet pour ça, parce que s'il arrive au mi-terme des affaiblis, puis tout peut se passer, hein, s'il n'a plus la majorité au Sénat ou à l'Assemblée.
Mais alors vous qui avez justement scruté de très près les mécanismes de décision des grands dirigeants du monde, quand Netanyahou dépeint le scénario, à la Maison-Blanche, le scénario de l'assassinat d'une querelle de dirigeants, en expliquant au fond que le régime va s'effondrer sur lui-même automatiquement par voie de conséquence, et ceci couplé avec des bombardements massifs, le régime serait très rapidement naufragé. Et à votre avis, il y croyait lui-même à ça ou...
Netanyahou, il faut savoir que il y a d'abord une communauté juive qui existe, qui est importante en Iran, hein, qui est d'ailleurs à la Chambre.
Ils ont même des parlementaires.
Des parlementaires. Alors, ils ne sont pas dans une logique Netanyahou. Et en même temps, il y avait beaucoup d'implantations Mossad. Enfin, le Mossad est un grand service et qui était assez présent. Et donc, est-ce qu'ils ont fait une mauvaise analyse? C'est d'ailleurs eux-mêmes, je crois que c'était reconnu, je crois, par Netanyahou, je ne sais plus par quel responsable américain, que c'est quand même eux qui organisaient les premières manifestations.
Oui.
C'était le réseau Mossad qui a détruit des mosquées et autres. Donc il est très difficile de savoir si Netanyahou pensait que c'était possible. C'est pas possible. Parce qu'on se rend compte d'ailleurs dans la guerre en Ukraine, moi qui suis allé plusieurs fois en Ukraine, en Russie et dans la guerre en Iran, c'est que les personnes qui décident ne connaissent pas ces pays. Trump ne connaît pas ce qui se passe en Iran. Il faut pas croire, et comme ses collaborateurs ne connaissent pas le pays, n'y sont jamais allés, ne sont jamais allés vraiment dans les profondeurs de ce pays, qui est quand même un pays de 90 millions d'habitants qu'on peut pas résumer en trois mots, comme le fait souvent la presse française. C'est un grand pays, évidemment, avec un régime que l'on peut évidemment ne pas soutenir, ça c'est tout à fait normal, mais en même temps, on se dit, mais pourquoi aller attaquer ce pays, alors qu'il y a un tas d'autres pays en Afrique ou ailleurs où les régimes sont affreux. Ce qui se passe à RDC, par exemple, à la frontière entre le Rwanda et la RDC, est terrible. Ce qui se passe au Soudan est terrible. Ce qui se passe dans d'autres pays est aussi terrible. Et là, vous avez le monde occidental qui s'en occupe pas, enfin, qui ferme les yeux, qui laisse les génocides se faire, hein, des génocides qui sont faits en Afrique actuellement, enfin, peut-être pas le mot, c'est difficile d'employer le mot génocide parce qu'on l'emploie un peu à tort à travers, mais du moins les massacres de civils qui sont énormes. Et c'est pour ça, cette fascination sur l'Iran a fait été orientée, j'allais dire, par le gouvernement Netanyahou qui, lui, depuis toujours, Israël voulait, avait peur de l'Iran. Ce qu'on comprend d'ailleurs, hein, parce que le discours des mollahs sur Israël n'était pas un discours très sympathique, hein.
Oui, mais les Israéliens, que Trump ne connaisse pas l'Iran, mais d'ailleurs, je crois qu'il
comme beaucoup d'Américains, quand vous
les
pensez...
Les Américains ne connaissent rien d'autre que l'Amérique.
Ce qui est dramatique, je vous raconte ça. Vous avez Ted Cruz, quand même, qui est un des plus importants sénateurs, qui est à fond pour la guerre en Iran, qui ne sait pas où était pratiquement l'Iran, il ne savait pas combien il y a d'habitants en Iran. Enfin, c'était Turc à caleçon qui l'interroge. Mais ça, on a le même problème en France. Vous avez vu d'ailleurs récemment les députés européens, avec en plus le secrétaire d'État à l'Europe, là, Haddad, qui ne savait pas où se trouvait l'Iran, c'est surréaliste, cette méconnaissance des choses. Et les gens prennent des décisions sur des sujets dont ils ne connaissent rien.
Ah oui.
C'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur ce que je constate, moi, sur l'affaire de l'Ukraine et de la Russie, depuis je ne sais plus combien de temps. Enfin, on voit dans nos médias, en dehors de quelques personnes qui connaissent bien, les médias racontent n'importe quoi. Par des gens qui ne sont jamais allés en Ukraine ni en Russie, ils racontent n'importe quoi. Et pareil pour l'Iran. Sur l'Iran, heureusement qu'on a eu quand même, je vois, sur les différents médias mainstream, heureusement, on a eu deux personnes qui connaissent bien les choses. C'était le journaliste du Figaro, là.
Renaud Girard.
Et puis, comment ça s'appelle Fenwick Gallagher.
Gallagher, Fenwick.
Voilà, qui ont dit, écoutez, voilà, il faut appréhender la réalité. Ça ne veut pas dire appréhender la réalité, être dans un camp ou dans un autre. Et c'est vrai que ces deux journalistes sur l'affaire de l'Iran qui ont redonné une crédibilité au discours qu'on entendait dans tous les médias.
Oui, mais alors il y a quelque chose...
Alors, je ne dis pas que j'adhère à ce qu'ils disent, mais au moins ils disent la réalité de ce qu'ils savent. Et ça, c'est important quand on veut analyser les choses.
Oui, mais alors... Que les Américains ne connaissent pas l'Iran, je dirais qu'ils connaissent rien d'autre que l'Amérique. Mais les dirigeants israéliens qui passent leur temps à scruter l'Iran, qui ont infiltré toutes sortes de strates en Iran, ceux-là, apparemment, ils sont versés dans des erreurs de jugement et de prévision absolument monumentales. et ils ont sous-estimé complètement la résilience du régime, apparemment. De même qu'ils ont sous-évalué complètement les stocks de missiles, par exemple. Ils ont très mal évalué les cités missilières souterraines de l'Iran. Je dirais que...
Ils ont aussi mal évalué aussi la solidité des BRICS. Écoutez, c'est difficile à porter un jugement, parce que moi, je n'ai pas toutes les informations là-dessus. J'ai tendance à penser, si vous voulez, que c'est un peu comme Paris et le reste de la France. C'est-à-dire qu'ils sont à Téhéran, ils ont beaucoup d'implications à Téhéran. Ouais. Et il y a le reste du monde, le reste de l'Iran, il y a 63 millions d'habitants. Téhéran, je crois, c'est 10 à 12 millions d'habitants. Et l'Iran, c'est pas Téhéran.
Même si c'est un peu comme nous, on ne peut pas dire que la France, c'est Paris.
Mais malheureusement, tout se passe à Paris. Et on voit très bien que la classe politique est complètement, celle qui dirige, est complètement dans un petit monde, un petit carré 7e, 6e, 8e et peut-être un peu 16e, et c'est tout. Ouais. Mais qu'elle ne connaît pas la France. C'est un petit peu ce qu'on vit quotidiennement. D'ailleurs, tous les candidats présidentiels sont sortis de ce milieu. Mmh. Vous avez vraiment... pas vraiment de candidats présidentiels qui viennent de la France profonde. D'où ce gap entre la vie politique et puis le reste de la France. Et je pense que peut-être aussi que ce qui s'est passé, alors c'est une idée mais qui n'a juste comme cela, que le fait que Netanyahou n'ait pas bien analysé ce qui se passe en Iran vient peut-être aussi de ça. Ils avaient peut-être beaucoup d'antennes à Téhéran, peut-être pas dans le reste du pays.
Oui.
Et puis, c'est juste une idée comme ça, mais je n'ai aucun élément d'analyse ni aucune relais qui peut me confirmer ça.
Et puis les opposants, comme souvent les opposants, ils prennent leur désir pour des réalités.
Oui, et puis Netanyahou est quand même quelqu'un de très vicieux. Enfin, il préférait avoir ça parce qu'il a besoin aussi de cette guerre.
Hein. Il faut pas dire comme sinon, il va en prison.
Cette guerre, ouais. Hein. C'est comme nous en Europe, on voit très bien que les grands leaders, Starmer, Macron, Tusk, qui est très affaibli, Merkel, qui est très affaibli, enfin, qui sont rejetés dans leur pays, ont besoin d'une guerre, d'une tension en Russie pour pouvoir continuer à exister. Enfin, on a ça, ce qui est d'ailleurs terrible. Et c'est là où la démocratie, on se rend compte, est très fragile. La démocratie, en fait, je crois, en Europe et même en Amérique, ne joue plus son rôle.
Et alors, justement, de même qu'il y a eu cette méconnaissance de l'Iran par les élites occidentales, il y a eu cette méconnaissance de la Russie par ces mêmes élites occidentales qui ont amené aussi des erreurs de jugement absolument énormes.
Oui, moi, j'étais moi-même, d'ailleurs. Moi, j'étais quelqu'un qui n'a pas connu la Russie. C'est tout à fait par hasard que j'ai connu la Russie au début de ma vie sénatoriale. Pour moi, la Russie, c'était le communiste avec le couteau entre les dents, les chars à Paris. Enfin, c'était un monde complètement fou. Et puis, la commission des affaires européennes m'a demandé plusieurs rapports sur les relations Union européenne-Russie. Donc, je suis allé très souvent en Russie et puis en Ukraine. Et j'ai vu, en fait, si vous voulez, qu'on ne se rendait pas compte que la Russie était complètement différente. Et que la Russie, d'ailleurs, lorsque Poutine est arrivé, il faut bien comprendre que la Russie était aux mains des Américains. Il ne restait plus que le gaz et le pétrole qui étaient à l'époque dans les mains de Khodorkovsky et qu'il allait vendre ça aux Américains, d'où cette affaire Khodorkovsky. Et tout le travail de Poutine a été de reprendre en main le contrôle de la Russie face aux Américains qui contrôlaient tout. Ils contrôlaient les appels d'offres, ils contrôlaient tout. Il faut bien comprendre ça. Personne ne le sait. La période Eltsine, c'est même les Américains qui ont fait réélire Eltsine à de deuxième mandat. C'était une annexe de l'Amérique. Et c'est vrai que, et en plus de ça, à l'époque, ce que tout le monde ignore, et encore récemment, j'ai déjeuné avec un ministre des armées de l'époque de Chirac, qui me disait, mais tu sais, à l'époque, moi j'en voulais à Chirac, parce que Poutine est arrivé, a demandé à Chirac de rentrer dans l'OTAN, et Chirac ne l'a pas vraiment cru, alors qu'il était très lié à Poutine. Pareil aussi, un de mes amis, qui est très proche de Prodi, me dit, j'ai vu en 2001, il voit arriver Poutine, très timide, ça, à l'époque était très timide, il est pratiquement les épaules la tête enfoncée dans les épaules, les mains dans les poches, qui dit, j'ai dans ma poche une demande d'adhésion à l'Union européenne. Et Prodi ne l'a pas cru. Alors après, il y a eu la demande officielle, mais sous la pression des Américains, on a rejeté tout ça.
Il y avait la soumission aux Américains, non qui...
ah, mais bien sûr, bon, il faut bien comprendre aussi que que la Commission européenne est une annexe des Américains. Enfin, voilà. On a fait une erreur monumentale au traité de Lisbonne. Déjà, on était sous influence américaine. N'oubliez pas qu'il n'y a pas un commissaire européen qui peut être nommé sans l'accord des Américains. Mais ça ne se sait pas, mais c'est la réalité. Puis il ne faut pas oublier non plus que le traité de Lisbonne, que j'ai voté, moi d'ailleurs, parce que j'étais très, très européen, c'était presque une religion, l'Europe. D'ailleurs, c'est un peu le problème chez beaucoup de gens. Et moi, j'étais partie de ces gens-là. je me suis rendu compte à quel point j'ai fait des erreurs. Quand on a voté le traité de Lisbonne, il y a une petite phrase, une petite trois lignes, même pas trois lignes, enfin une demi-ligne sur l'OTAN, comme quoi on ne peut aller contre l'OTAN. Or, c'est l'OTAN qui contrôle tout, qui contrôle le narratif, par ce qu'on appelle le soft power de l'OTAN, qui contrôle le narratif de la plupart des médias européens, qui contrôle la Commission européenne. La Commission européenne, et on le voit très bien, n'est qu'une annexe, si vous voulez, de l'Amérique. Alors, actuellement, elle ne s'entend pas avec Trump. Hein, là, elle essaie de montrer un petit peu son existence face à Trump, mais ça n'empêche pas que ce qu'on appelle le deep state américain a énormément d'influence aux États-Unis. Et ça vient aussi de la faute des Européens, parce qu'il faut bien comprendre qu'en 1945, quand l'Europe s'est voulu se créer, notamment quand il y a eu l'appel de Robert Schuman en 1941, il y avait une volonté américaine de créer une structure européenne pour s'opposer aux soviétiques. Et ce qui était d'ailleurs un peu logique, parce qu'en plus, bon. Et donc les Américains avaient leur idée. Mais il ne faut pas oublier non plus, alors ça c'est la thèse de vie, il dit de toute façon l'Europe a été créée par les gens de la CIA, ce qui est vrai. Mais n'oubliez pas qu'en 1945, tous les résistants, tous les pouvoirs, tous les partis politiques, sauf le Parti communiste, étaient financés par les Américains. Les partis communistes étaient financés par les Russes. Donc tout ça était... Donc il est tout à fait normal que tous ces gens aient travaillé avec les Américains, qui étaient les plus présents en Europe et qui avaient participé justement à la libération de la France et des pays européens. Mais ce qui s'est passé... c'est qu'il y avait aussi une pensée démocrate chrétienne, c'est la pensée de Pie XII. Et Pie XII était très important parce que lui voulait faire justement l'Union européenne pour éviter toutes les guerres qui sont passées, d'où l'appel de Robert Schuman. Et d'ailleurs, personne ne connaît bien cette histoire. Alors là, je vois, quand j'écoute De Villiers, que j'aime bien, mais qui est un peu caricatural sur l'Europe, il dit oui, de toute façon, Monet, c'est un type, quelqu'un d'assez. Il n'a pas tort, c'était Monet représentait les intérêts américains. Mais en même temps, Monet. Et il faut lire ses derniers textes, lui était contre cette gestion de l'Europe par une commission européenne et surtout par des fonctionnaires. Parce que qu'est-ce qu'on constate, si vous voulez, que ce traité de Lisbonne, là, qu'on a, alors que les Français avaient refusé par la Constitution et que les parlementaires, comme moi d'ailleurs, et je le regrette de l'avoir voté tel qu'il était, pas, il y a beaucoup de bonnes choses dedans, mais c'est un peu ce qu'il disait Seguin, il y a de bonnes choses dedans, mais il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ça, je regrette de ne pas avoir eu à l'époque, je ne sais pas si j'aurais changé grand-chose, et encore, je ne suis pas persuadé, parce qu'à l'époque, ce texte est passé à une ou deux voix. Et donc, il ne suffisait pas beaucoup de parlementaires pour le faire jeter. Autant que je me souvienne, hein, que je ne dise pas de bêtises. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les États-Unis, si vous voulez, avec notamment l'OTAN, contrôlent l'Europe. Personne n'a compris de ça. La stratégie vaccinale contre le Covid, c'était une stratégie qui était aussi une stratégie qui est partie de la DARPA. La DARPA, personne ne sait en Europe, quand je dis ce que c'est la DARPA. La DARPA, c'est une structure de scientifiques avec les meilleurs scientifiques du monde qui sont extraordinaires, qui sont d'une intelligence extraordinaire. C'est eux qui sont d'ailleurs la stratégie Covid. D'ailleurs, ils ont fait un rapport à Biden que personne n'a. Moi, je l'ai envoyé au Sénat, personne ne l'a lu. Un rapport de 2023, c'est ça qui a été donné à Biden là-dessus. C'est une nanotechnologie. C'est aussi l'OTAN qui, sur l'affaire de l'Ukraine, nous a imposé un peu cette stratégie. Alors, évidemment, et en même temps, une stratégie, le narratif, c'était très caricatural pendant, au tout début, quand vous aviez un fonctionnaire d'un bureau du Pentagone ou de l'OTAN qui faisait un communiqué, c'était envoyé à la Commission européenne, vous avez Van Leyen qui le reprenait mot à mot, puis après tous les chefs d'État et tous les ministres des Affaires étrangères. C'était mot à mot la communication contrôlée complètement. On ne se rend pas compte à quel point l'OTAN est une structure de contrôle de l'Europe. Alors, on dit l'OTAN, c'est bien pour nous défendre. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé la vie politique, j'étais avec Jean-Luc Canuet. Et Jean-Luc Canuet était prudent. Il disait, mais bien sûr, il y a l'OTAN. Hein, les défenses européennes, il a faux. Et c'est vrai qu'il a souhaité, comme d'ailleurs plusieurs ont souhaité une défense européenne.
À cette époque, bien sûr.
Mais il disait bien, il y a deux défenses européennes et sur deux piliers, l'OTAN et la défense européenne. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait, je crois que c'était le traité de Saint-Malo, il y avait ce qu'on appelait l'UO. Moi, faisais partie de cette assemblée parlementaire. C'est très intéressant. Cette UO n'était pas tous les pays européens, devait être une 26-27, ou 23-24, je ne sais plus. Et on travaillait beaucoup là-dessus. Et il y avait une réflexion de défense européenne. Et d'ailleurs, tous les rapports qui ont été écrits sont maintenant dans la bibliothèque du Luxembourg. Et cette UO, je me souviens, a été supprimée en 2011 quand Nicolas Sarkozy a décidé de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN. À l'époque, moi-même, j'ai fait une erreur. Je pensais que ça allait nous donner beaucoup plus de poids. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au contraire, que ça a complètement laminé l'indépendance stratégique de l'Europe. Et on le voit très bien. Là, il y a une chose qui me surprend. Ces affaires du Liban, c'est pas normal, si vous voulez, qu'Israël... Alors, je comprends qu'il y a Hezbollah, mais en même temps, quand vous prenez les choses, Il y a eu un accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël en 2023. Les Hezbollah n'ont jamais rompu le cessez-le-feu. Les Israéliens, 2000 fois. Alors, je comprends en même temps qu'ils aient une angoisse, les Israéliens, parce qu'il y a les Hezbollah à côté. Mais, et donc, ils envahissent le Liban. Mais est-ce que c'est normal qu'ils envahissent un pays? Et la France, qui théoriquement est protecteur des chrétiens d'Orient et des chrétiens depuis toujours, enfin, on a laissé faire en Syrie, on s'est laissé manipuler par les Américains en Syrie, mais et en même temps, il y a au Liban, on dit on intervient, vous avez le président, vous avez le ministre des Affaires étrangères, tout ce qui dit, ah oui, oui, il faut défendre le Liban. Mais attendez, mais dans ces cas-là, on n'a qu'à demander à l'OTAN d'y aller. Et l'OTAN irait, qu'elle serve à quelque chose. L'OTAN a toujours fait des guerres qu'elle a perdues. Mais par contre, l'OTAN, ce qu'elle a bien, c'est qu'elle a réussi à vendre des milliards d'armes américaines à l'Europe. Et c'est ça l'intérêt de l'OTAN. L'intérêt de l'OTAN, et puis elle a réussi à contrôler aussi le narratif et les décisions militaires, enfin les décisions qui, de défense de l'Europe. Et là, si vous voulez, c'est là où je me rends compte que, c'est vrai que l'OTAN est un problème pour nous. Moi, je considère d'ailleurs que il y a beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point des dérapages de la Commission européenne, qui ne respectent pas les traités et autres, enfin, Van Leyen est un. C'est une caricature. Tous les jours, elle va contre les traités. Et personne ne dit rien au Conseil européen. C'est le Conseil européen qui décide. Ce n'est pas la Commission européenne. Mais c'est le fait non. Parce que d'abord, tout simplement, le Conseil européen, vous savez combien ils ont de fonctionnaires, même pas 30. Alors que la Commission européenne doit être à 35 000 ou 100 000. Et la puissance de réflexion de la Commission européenne fait que le Conseil européen ne réagit pas. Mais on pourrait aussi avoir des présidents comme Macron qui sont au Conseil européen qui disent non, c'est nous qui décidons non. Pratiquement toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil européen depuis qu'il y a Van Leyen, c'est Van Leyen qui les a imposées. Et c'est là où on se rend compte la fragilité, si vous voulez, de l'Union européenne, et notamment avec son fonctionnement qui est très antistatutaire contre les traités. Mais personne ne réagit. Et c'est là où on a un véritable problème démocratique. Et moi, je crois que alors, il y a beaucoup de gens en France ou ailleurs qui sont pour le Frexit. Les Anglais l'ont été. Et qui disent qu'il faut écouter. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait faire l'évaluation de ce qu'a apporté l'Europe, ce qui est positif, ce qui est négatif. Et puis, peut-être plutôt, ce qui est beaucoup plus simple, à sortir de l'Europe, c'est très compliqué. Mais ce serait plutôt de sortir de l'OTAN. Sortir de l'OTAN, c'est plus facile. Et quand vous sortez indirectement de l'OTAN, vous affaiblissez l'OTAN et vous prenez beaucoup plus de poids au sein de l'Europe. Voilà, c'est un peu ma tête.
Et alors, justement, concernant l'OTAN, est-ce que vous accréditez l'idée que l'élargissement forcené de l'OTAN à l'Est a provoqué la situation conflictuelle que nous avons maintenant avec la Russie?
Mais bien sûr, c'est l'accord qu'il y avait entre Bush, le père Bush, et puis Gorbatchev. Ils étaient très respectueux l'un de l'autre, ils s'admiraient, ils étaient même très proches. Et l'accord, d'ailleurs, c'est pas... D'ailleurs, j'ai travaillé là-dessus, ce dossier-là, avec des gens de l'ONU, secrétaire général adjoint de l'ONU, des Américains. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas Bush qui a dit à Gorbatchev, on ne va pas s'élargir l'OTAN, c'est Jen Baker. Voilà, Jen Baker qui gérait tout cela. Il a dit très bien, on reste à la limite de l'OTAN. Et après, ça ne s'est pas fait. Même Clinton, d'ailleurs, au début de son mandat, était d'accord. Sauf qu'il a eu des mid-termes très négatifs. Il est obligé de durcir. Et donc, c'est pour ça que lui, il a accepté que les pays de l'Est rentrent. Puis, il faut bien comprendre aussi que c'est le gros problème qu'on a eu, c'est quand il y a eu cet éclatement de l'Union soviétique et leur réunification allemande. Et la réunification allemande, et n'oubliez pas que Mitterrand n'a jamais dit, mais il se rendait compte que l'Allemagne allait devenir le plus grand pays de l'Europe, allait diriger l'Europe, et qu'il était assez réticent, qu'il était lui plutôt dans une logique de faire la grande Europe avec la Russie. Mais il ne pouvait pas s'opposer à la réunification allemande. Et c'est là qu'il y a eu une négociation, d'ailleurs, pour que les Allemands qui ne voulaient pas abandonner le mark, abandonnent le mark pour l'euro, et en contrepartie, ils ont pu, si vous voulez... faire la réunification allemande et accueillir tous ces pays de l'Est qui sont devenus des pays sur lesquels ils prenaient toute leur...
C'était leur arrière-cour industriel.
Voilà. Et c'est vrai que ça a été un élément très important. Alors d'ailleurs, à ce propos, et très peu de gens le connaissent, Macron le sait, et pour différentes raisons, je sais qu'il le sait, mais qu'il ne tient pas compte, Mitterrand a demandé à ce que l'Allemagne, les vainqueurs de la guerre de 39-45 et les deux Allemagnes, parce qu'à l'époque il y avait deux Allemagnes, signent un traité qu'il avait que Dumas a proposé, et ce traité a été signé par la Grande-Bretagne, par la France, par l'Amérique et la Russie, de 1990, qui limite le réarmement allemand, et qui deuxièmement interdit à l'Allemagne le contrôle et la possession de nucléaire militaire. Regardez, et ce qu'on ne comprend pas, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, est tenu par l'article 5, c'est lui qui est responsable des traités, ne le fasse pas appliquer. Au contraire, il va dans le sens contre, puisque lui-même propose le nucléaire aux Allemands, alors que c'est interdit par ce traité, et que lui-même en plus accepte ce réarmement allemand. Vous avez le discours de Merz, qui est très affaibli d'ailleurs en Allemagne à l'heure actuelle, qui dit « nous allons devenir la plus grande armée d'Europe ». C'est le même discours qu'on entendait chez Hitler, on ne peut pas imaginer ça. Et alors c'est vrai que la génération actuellement qui dirige n'a pas connu la guerre. 90 des gens comme Mitterrand avaient connu la guerre, savaient ce qu'avaient fait les dégâts de l'Allemagne. Et moi, j'ai tendance à penser que l'Allemagne redevient un problème maintenant pour l'Union européenne et pour l'Europe. Elle, d'abord, c'est elle qui dirige l'Europe. On est complètement dépendant de l'Allemagne. On n'est plus du tout dans un couple franco-allemand. Que le couple franco-allemand, d'ailleurs, moi, c'est vrai que je l'ai connu quand j'étais avec le Canuet. Et notamment, lorsqu'il y a eu l'élection au Parlement européen, ça a été fait par le groupe centriste au Sénat, parce qu'il y avait à l'époque un sénateur d'Alsace qui connaissait très bien Kohl. Et Mitterrand et Schmitt voulaient faire le Parlement européen, mais il fallait l'accord de la CDU. Et ça s'est passé par le groupe centriste au Sénat. Je raconte cette histoire, ça c'est intéressant. Et on était dans une logique plutôt de couple franco-allemand. On l'a été aussi, je pense, aussi quand il y a eu le Mitterrand après avec... Et même Chirac, Schröder. Mais depuis qu'il y a Merkel, tout ça, il n'y a plus de couple franco-allemand. Depuis Sarkozy, depuis Hollande et puis Macron, il n'y a plus de couple allemande. L'Europe est dirigée par l'Allemagne. L'Europe, c'est la puissance allemande qui dirige.
C'est très clair.
Il dirige le plus grand groupe au Parlement européen, qui est le PPE. Il dirige la Commission européenne. Et puis surtout, c'est eux qui imposent les décisions. Et on n'a jamais... Enfin, et Macron, qui aurait pu, et d'ailleurs, moi, au début, j'espérais beaucoup en Macron. Mais en fait, il s'est révélé, si vous voulez, inexistant. Enfin, il a toujours des discours très pro-européens, très fédéralistes. Il a dû accompagner des décisions que les Allemands prennent, mais on ne peut pas penser, même si actuellement il apparaît comme le roi des fédéralistes européens, qu'il ait joué un si grand rôle que ça en Europe. Au contraire, je pense qu'il a affaibli plus qu'autre chose. Mais ça, c'est ma thèse personnelle.
Et justement, le sabotage des gazoducs Nord Stream, c'est bien les Américains qui l'ont fait.
Écoutez, moi je me souviens, quand j'étais sénateur, j'avais le président Mestrallet, qui était le président d'Angie, me dit, voilà, comme c'est moi qui suivais au Sénat les relations avec l'Ukraine, avec la Russie, il était allé, c'était juste la veille du Bataclan d'ailleurs, c'est assez curieux, on était allé à Saint-Pétersbourg fêter les 40 ans ou les 50 ans des relations entre le Gaz de France et puis Gazprom. Et là, dans l'avion, il m'a dit, voilà, je viens de voir le président Hollande, et il est d'accord, donc on va mettre 1 milliard pour construire Nord Stream 2, ce qui était quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi c'était fait, Nord Stream 2? C'est en fait Merkel qui avait été obligée de supprimer l'aide nucléaire à cause des Verts, et donc elle a eu une réunion avec Poutine, je crois, à Homs, enfin dans une ville russe, ça a duré 3-4 jours, et c'est là qu'ils ont décidé de faire Nord Stream 2. Et d'ailleurs, en remerciement, Poutine, je crois, a fait construire dans cette ville, ce qu'on m'a raconté, je ne suis pas allé, une chapelle luthérienne, je crois qu'elle était luthérienne, bon, qui maintenant n'est plus là, pour sceller cet accord, c'est pour montrer qu'il y avait un très bon accord entre l'Allemagne et puis les États-Unis. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était extraordinaire pour nous. On avait d'abord beaucoup de gaz qui arrivait, il y en avait déjà un. Ça aurait été vraiment pour l'industrie européenne. D'ailleurs, les Français avaient financé, les Allemands avaient financé. Et pour l'industrie allemande, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, moi je me souviens, j'étais dans le bureau de Juncker, le président de la Commission européenne, je crois que c'était en juin 2017. J'étais dans son bureau, il m'a demandé à me voir parce qu'il appréciait beaucoup les rapports que j'avais faits et il les soutenait, c'était quand même le président de la Commission européenne. Il est soutenu d'ailleurs contre son cabinet, qui lui était vraiment très pro-américain et contre ses rapports où je demandais, moi, qu'il y ait une grande Europe. Et là, je me souviens encore, c'était 10h du matin, j'étais avec un de mes collègues socialistes, arrive une dépêche, Bloomberg, je crois, au Reuters, en disant « Trump veut mettre des sanctions contre Nord Stream 2 ». Et je me souviens encore, le président Juncker, qui était le président de la Commission européenne, qui était plutôt logique, il savait rien, pas du tout anti-américain, qui prend la dépêche et qui s'énerve et qui dit, là, on va prendre 15 ans, 20 ans, on va être embêté par les Américains à cause de ça, parce que Trump, lui, dans sa logique de commerçant, ça, voulait vendre son gaz de schiste. Et déjà, d'ailleurs, à l'époque, la France achetait beaucoup de gaz de schiste. Je me souviens, puisque quand je suis revenu à Paris, j'ai posé une question à l'époque à Nathalie Lazo, qui arrivait comme ministre des Affaires européennes. Je lui ai dit, mais attendez, il y a 12 bateaux de gaz de schiste qui sont arrivés au Havre il y a 3 jours. Elle n'était même pas au courant, elle ne savait pas ce que c'était. Enfin, l'ignorance mais de cette équipe de Macron à l'époque était extraordinaire. Et c'est vrai que, pour en revenir à l'affaire Nord Stream 2, moi je pense que, alors évidemment, tout le monde accuse les Ukrainiens.
Mais ce qui est parfaitement ridicule.
Mais ce qui, d'après moi, ils n'étaient pas en état de le faire. On a beaucoup d'informations que c'était en fait le réseau anglais avec le soutien des Américains, de l'OTAN, qui a fait sauter Nord Stream 2.
Voilà.
Comment voulez-vous, d'ailleurs, il y a un de mes amis ingénieurs qui a expliqué ça, mais comment voulez-vous, les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de le faire sauter. Alors là, tous les jours sort, les Américains sont très forts pour contrôler le narratif, ou les Anglais encore plus, parce que c'est les Anglais, c'est vraiment... On a vraiment que les Anglais, notamment les services secrets anglais, le point de guerrier, vous savez, toutes les guerres sont parties, en fait, de l'Angleterre, en fait, de la City, l'Angleterre. Et là, je pense que derrière tout ça, enfin, je n'ai pas d'informations précises, mais je veux dire, compte tenu de la logique des choses, c'est certainement pas les Ukrainiens qui ont fait sortir Nord Stream 2, ils n'avaient pas les moyens de le faire. Ils ont dû participer, très certainement, mais c'est pas eux.
Tout le monde sait qu'il y a un très petit nombre de pays qui ont les compétences, les moyens techniques.
Bien sûr.
Il y a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France,
voilà.
La Russie,
voilà.
Bon, la Chine, mais la Chine n'est pas concernée, voilà. Là.
Et puis je pense aussi que la France est quand même coupable, parce que la France a dû valider ça. Là, on a perdu, enfin, notre argent qui a été mis a été perdu. Et puis surtout, les conséquences économiques, ça provoque, c'est terrible.
Absolument.
La bêtise des sanctions européennes. On avait eu, moi que je me souviens, quand j'étais sénateur, on a eu l'affaire de Crimée. Et à l'époque, on avait mis des sanctions contre les Russes. Et au Sénat, on s'était rendu compte que les sanctions contre les Russes se retournaient contre la France. Et notamment, ça avait eu je ne sais plus combien d'entreprises agricoles qui tombaient en faillite à cause de
Mais
ça.
Oui.
Et d'ailleurs, à l'époque, on m'avait demandé, enfin, avec un ami socialiste, la Commission des affaires européennes et la présidente, nous avait demandé de faire une résolution contre les sanctions. Vous savez, c'est quelque chose qui était... En plus, on avait fait quelque chose de très soft, c'est-à-dire qu'on disait on diminuera les sanctions en fonction d'évolution du dossier. C'était vraiment quelque chose qui n'aurait pas bouleversé les choses. Mais vous avez eu le Quai d'Orsay, vous avez eu tout le monde qui a réagi, ça a été extraordinaire. Et on a quand même fait voter cette résolution. Vous avez eu quand même 303 sénateurs qui ont voté pour cette résolution, les socialistes les premiers, contre leur gouvernement. Vous avez à l'époque Hérault qui voulait à tout prix bloquer ça. Je me souviens, j'ai signé cette résolution avec un ami socialiste qui lui défendait aussi. Et il m'a dit, à minuit, il y a Hérault qui m'a appelé, il m'a dit, vous ne pouvez pas faire ça. Il a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais tous les socialistes sont avec, tout le Sénat soutient cette résolution. Pour vous dire à quel point, si vous voulez, on sait très bien que les résolutions... Et puis deuxièmement, moi j'avais bien vu, on avait fait l'évaluation des conséquences de ces sanctions. On était passé un échange Union européenne-Russie de 600 milliards à 200 milliards en très peu de temps. Et là, ça fait déjà depuis 2022 qu'on a des sanctions contre la Russie. Personne n'a fait l'évaluation. Ni la Cour des comptes, ni les commissions du Sénat d'Assemblée. Mais c'est surréaliste. Vous avez des conséquences énormes par rapport à ces sanctions. On continue à en donner encore, il y a encore, on en a donné. Oui. Et personne ne fait l'évaluation des conséquences. En plus de ça, tous les échos, tous ceux qui suivent un peu la Russie, savent que la Russie, au contraire, a profit de ces sanctions. C'est un pays actuellement économiquement enrichi. On est même obligé d'acheter du gaz russe. Contrairement, on ne doit pas acheter, vous savez, ces derniers accords, là, parce qu'on n'a plus de gaz à cause de... Mais c'est complètement fou. Et là, il y a une responsabilité, moi, je pense, des organismes de contrôle, notamment, je pense, au Parlement. Je regrette que les commissions ne fassent pas leur travail, parce que n'oubliez pas que le Parlement a deux missions. Voter les lois, mais aussi contrôler l'exécutif.
Mais oui.
Et là, on ne contrôle pas l'exécutif. C'est comme également, si vous voulez, on a fait, alors évidemment, ce n'est pas public, mais on essaie de le rendre public. Vous avez l'Institut Kiel qui a fait l'inventaire des sommes que la France a données à l'Ukraine, en comptant évidemment les sommes européennes et les sommes françaises et tout le reste. On est à 80 milliards. Mais vous n'avez aucune commission, ni au Sénat, ni à l'Assemblée. Je ne parle pas à l'Assemblée, parce qu'elles sont toutes contrôlées par le réseau Macron. Mais au Sénat, ils auraient pu faire l'évaluation de ces sommes données à l'Ukraine. Et à quoi ça a servi? On voit très bien qu'il y a beaucoup, on sait très bien, certaines ont été très fléchées, on sait à quoi ça a servi, mais une partie, on ne sait pas à quoi ça a servi. Et puis vous avez le grand ami de Macron, cet oligarque qui a acheté un bateau à 700 millions, qui a acheté un appartement à Monaco à 450 millions d'euros, qui a acheté à Cap Ferrat, la plus grande villa de Cap Ferrat à 200 millions. Et cette personne, et puis vous allez à Monaco, vous avez des voitures de luxe ukrainiennes. Et vous avez en Ukraine le pays qui est devenu le plus gros vendeur de Bentley. Non, le troisième, exactement, pas exact.
Acheteur.
Le troisième acheteur de Bentley.
Oui.
Mais moi, je me souviens déjà, quand j'allais en Ukraine à l'époque, là, je veux y aller, mais j'étais surpris quand j'arrivais à l'aéroport, il y avait le trajet, vous savez comment, entre Roissy et Paris, là, c'était entre l'aéroport et Kiev, le nombre de, de, comment ça s'appelle, de société de voitures de luxe. Oui. Déjà, c'était la fois dernière que je suis allé, je suis en 2014. Je vous imaginez. Mais j'ai des amis ukrainiens, j'ai beaucoup d'amis ukrainiens, parce que moi, j'étais à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. J'ai conseillé beaucoup d'amis ukrainiens, de parlementaires, dont beaucoup ont été obligés de fuir. Il y en a qui sont réfugiés en Australie, qui sont réfugiés au Canada, qui sont réfugiés dans d'autres pays. Il y en a d'autres qui sont en prison. Parce que le régime de Zelensky, je peux vous dire, ce n'est pas un régime démocratique. Et, mais j'ai encore beaucoup de contacts. Et ils me disent, mais tu ne peux pas savoir. À Kiev, le moine fonctionnaire roule en Bentley ou en Maserati. Enfin, c'est complètement fou. Et donc, on sait très bien que c'est un pays de corruption qui est énorme. Et personne ne dit rien. Et on continue, on va donner encore 90 milliards. J'ajoute là-dessus que je me souviens, il y a quelques temps, j'ai vu des députés ukrainiens. J'aurais dit, mais comment peut-on arrêter la guerre? Ils m'ont dit, c'est tout simple. Arrêtez d'envoyer de l'argent.
Ben oui.
Et là, on envoie 90 milliards, dont une grande partie pour la France, parce que les autres pays, comme le Hongrie, tout ça, ils ne vont pas payer le prêt. Ils ont dit, très bien, vous l'envoyez. Bon, on dit oui, mais nous, on ne remboursera pas le prêt. Et ça veut dire que ça va être les grands pays comme la France, l'Allemagne qui donne beaucoup et la France, qui vont avoir à payer tout cela.
Merci. Eh bien, cher Eric, nous allons rappeler les références de notre émission connaissance des messages des auditeurs.
Nous identifier, effectivement, deux messages importants viennent d'arriver. Chers auditeurs, tout d'abord, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui M. Yves Pozzo di Borgo, ancien vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.
Des forces armées, exactement.
Des forces armées, pardon. Merci beaucoup.
Oui, des forces armées. Oui.
Le thème de l'émission, l'escalade est-elle inéluctable au Moyen-Orient ? Alors, deux messages viennent de nous arriver, assez longs, mais dont l'un se termine par une question. Un message de Jean Denis, qui est un très fidèle auditeur et qui a toujours des remarques extrêmement intéressantes. Bonjour. Donc, je lis ce message. Trump est bien entouré d'un réseau constitué à la fois de pro-israéliens et évangélistes millénaristes, tout aussi fondu dans l'attente de la fin des temps, dont la gourou Paula White, qui s'est récemment produite dans une manifestation hystérique en se traînant au sol pour combattre le démon. Mais il y a aussi les dossiers Epstein, peut-être pas les photos avec des femmes plus ou moins jeunes, mais des informations sur les affaires personnelles de Trump, qui selon les propos de Epstein à Steve Bannon, trompait ses associés en publiant des comptes truqués et rappelait les méthodes de corruption du père. En plus, la guerre contre l'Iran cache mal la guerre contre la Chine. Avec les propos de Besset qui prévoit de priver la Chine du pétrole iranien après l'avoir coupé du Venezuela et le projet de contrôler le détroit de Malacca par où transite plus de 60% du commerce maritime chinois. Cette stratégie d'isolement de la Chine ne date pas d'hier. Elle a été écrite clairement avant 1900 par Alfred Mahan qui n'a pas changé depuis. N'oublions pas que l'affaire Covid a démarré au cœur de la Chine industrielle, en pleine guerre commerciale sous le premier mandat de Trump. Un Trump qui prétend arrêter les guerres, en fait pour se concentrer sur le vrai ennemi du dollar, la Chine. Alors voilà une question maintenant. Ne risquons-nous pas d'assister à un Pearl Harbor à la chinoise, c'est-à-dire soigneusement préparé par la plus grande puissance militaire actuelle, sous les principes rigoureux d'un Sun Truc qui consacrera la fin de l'Empire américain né après la guerre de 1898 ?
Oui, cette personne a raison, mais en même temps... Je crois que Trump se rend compte, enfin, du moins quand il est... Parce que beaucoup de tes amis disent qu'il est sous emprise actuellement. Hein. Ils sont très inquiets parce qu'ils disent qu'on ne le reconnaît plus. Et ils sont vraiment inquiets à cause de ça, d'ailleurs. Et le problème, c'est que maintenant, la Chine était là. Une des plus... Moi, j'étais en Chine, je viens de faire deux voyages, là, les 6 derniers mois. C'est quand même une puissance impressionnante. Hein. Et ce n'est pas uniquement une puissance non plus économique, c'est aussi une puissance militaire. Et en plus de ça, si vous voulez, le problème, moi je me souviens quand j'ai commencé mes rapports, était d'éviter que la Russie, quand j'ai commencé mon premier rapport en 2006, je crois, les troupes russes étaient à la frontière chinoise. Et puis dès l'affaire de Géorgie, elles sont venues sur la frontière européenne. Et toute l'idée était d'éviter que la Russie, qui craignait d'ailleurs la Chine, aille retrouver la Chine. Or maintenant, les relations chinoises et russes sont très fortes. Elles sont fortes au niveau militaire, elles sont fortes sur beaucoup de sujets. Elles sont fortes au niveau économique, et notamment tout le gaz qu'on envoyait, qu'on devait envoyer par Nord Stream 2, maintenant passe par un tuyau qui va en Chine. Mmh. On ne s'est pas rendu compte à quel point on a laissé filer la Russie vers la Chine, et que donc ce n'est pas aussi simple que ça pour Trump ou pour les Américains, si vous voulez, d'affronter la Chine. Alors évidemment, tout est possible. Hein. L'histoire, on ne peut pas la prévoir à l'avance. Hein. Ce qui s'est fait, ce qu'ont fait les Japonais à Pearl Harbor. Mais en même temps, moi, je réfléchis toujours, je reviens toujours à cette réunion que j'ai eue à Dhaka, là, avec tous les parlementaires du monde. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, si vous voulez, l'Asie et tous les pays, l'Inde était dépendante, était contrôlée par les Anglais et les Français. Une partie de l'Asie était contrôlée par les Français et par les Américains. Et tous ces pays, rappelez-vous, alors c'était, je ne veux pas soutenir ce régime de fou qu'il y avait au Japon à l'époque, mais c'était le thème, c'était quoi? L'Asie aux Asiatiques. C'était pas un thème idiot, sauf qu'évidemment c'était un régime complètement fou qui a provoqué des massacres terribles en Chine. D'ailleurs, j'étais encore des amis chinois récemment qui m'ont dit pour eux, ce qu'ont fait les Japonais en Chine, c'est pire que ce qu'ont fait les Allemands, disent-ils, en Europe. Mais on se rend pas compte que chacun chez soi. Et que cette logique de gouvernance mondiale qu'ont eu d'abord les Européens, n'oubliez pas qu'il y a 3-4 siècles, c'était la Chine le plus grand pays du monde. Et ce sont les Anglais et les Français qui, par la guerre de l'opium, ont complètement cassé la Chine.
Oui.
Et que pendant 3-4 siècles, ce sont les Anglais, les Allemands, les Français, surtout les Anglais, les Britanniques et les Français qui ont contrôlé le monde. C'était la grande puissance. Nous, nos expositions universelles, au début du XXe siècle, c'était vraiment la puissance, c'était la plus grande puissance du monde. Paris était la capitale du monde, mais parce qu'en fait, on contrôlait le monde. Petit à petit, les Américains ont pris la place, d'abord par l'affaiblissement qu'on a eu, la guerre de 14-18, et puis surtout 39-40. Les Américains ont repris le rôle de ces trois pays. Mais maintenant, je ne suis pas persuadé, avec l'arrivée des BRICS, que l'on n'intègre pas dans la stratégie européenne. Personne n'en parle, on en parle comme quelque chose d'anecdotique. En fait, on ne se rend pas compte que par l'arrivée des BRICS, on est en train de changer le monde. Et des BRICS, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus... Même s'il y a des régimes qui sont très autoritaires, ils ont un comportement beaucoup plus démocratique et plus diplomatique que les pays européens quand ils dirigeaient le monde ou que l'Amérique quand elle dirigeait le monde. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 1945, toutes les guerres ont été faites par l'Amérique.
Oui.
Toutes les guerres. Toutes les guerres. Parce qu'il y a plus de ça, c'était, je ne sais pas si les Français ne le savent pas très bien, mais lorsque Eisenhower, le président américain qui était le général qui a en fait amené les Américains, qui a aidé la France à se débarrasser des Allemands, écrit, il a été président des États-Unis, à la fin de son mandat, il écrit une lettre à tous les Américains en disant « Si on n'arrête pas la puissance du complexe militaro-industriel, nous serons en guerre tout le temps. » Et c'est ce qui s'est passé. Et les Américains ne faisaient pas la guerre pour gagner la guerre. C'était la Corée, c'était le Vietnam, tout ça. Ils faisaient la guerre pour vendre des armes. Et ils tuaient des millions de civils. C'est terrible. Là, s'il y avait eu une tribunal pénal international, les Américains, beaucoup de responsables américains, devraient être devant le tribunal pénal international. Parce que pour eux, le complexe militaro-industriel avait besoin des guerres. Et l'OTAN ne fait que des guerres. C'est l'Afghanistan où on a suivi, nous, comme des imbéciles, les Français. On était dans l'OTAN, on a suivi. Regardez, en Afghanistan, c'est un petit pays qui devait avoir un PIB peut-être de 3 milliards, 4, 5 milliards, je sais très bien. Ils ont dépensé des dizaines de milliards en armement. Et ça plaisait au complexe militaro-industriel. Ça leur était égal de gagner la guerre ou pas la guerre. Leur problème, ils vendaient des armes. Et ça permettait au président de la République et aux parlementaires de monter le budget des États-Unis à 1 000 milliards par an. Enfin, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'était l'importance. Maintenant, je crois même que Trump veut monter à 1 500 milliards, mais c'est de la folie. Quand on fait des armes, c'est pour les utiliser. Ça fait des morts. Ça ne veut pas dire qu'on fait gagner les guerres, mais ça fait des morts. Et ça, je crois que c'est un monde qui est en train de changer. Parce que pour le moment, les BRICS, on le voit très bien, ils sont dans une logique de négociation. Ce n'est pas la Commission européenne, la structure qui dirige les BRICS. Ouais, on discute. Hein. Par exemple, sur l'affaire de l'Iran, l'Inde n'a pas suivi la Chine et la Russie. Là, ils vont se retrouver le 13 mai en Inde. Peut-être qu'ils vont se mettre en phase sur les choses. Mais c'est quelque chose qui change. Et je crois que et le problème de la France et des politiques français qui ignorent beaucoup la politique internationale, ça c'est classique depuis toujours, nous ne parlons même pas des Américains, et puis aussi de la classe médiatique française en dehors de quelques personnalités, c'est qu'on ignore, on connaît mal ce genre de choses, et surtout on ne prend pas conscience de ce changement, mais énorme qu'il y a dans le monde actuellement, où il n'y aura plus un monde bipolaire contrôlé par les Américains. Et d'ailleurs, ce qui est le signe de les Américains étaient si puissants parce qu'ils avaient d'abord 75 accords de défense et qu'ils avaient aussi 750 bases. Oui. On a vu d'ailleurs à quoi servent ces bases, elles sont très inutiles. Et surtout, ils avaient 11 porte-avions. Parce qu'à l'époque, les porte-avions, ça leur permettait d'être sur toutes les mers du monde.
Toutes les mers,
et ils avaient une puissance terrible comme ça. Sauf, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la guerre en Ukraine, moi, les Russes ont envoyé une petite missile hypersonique. Et je me souviens, moi, j'habite à côté de l'Assemblée, je descends, je tombe sur un de mes collègues députés, je n'étais plus sénateur, un de mes collègues députés, qui était le grand spécialiste de tout ça. Je dis, écoute, j'ai l'impression qu'avec ce missile hypersonique, tous les milliards que l'on met dans l'OTAN et les 11 porte-avions, va partir en fumée. Il m'a dit, tu as raison. C'était en 2022 qu'il m'a dit ça, je me souviens très bien. Mm-hmm. Et en fait, on s'est rendu compte. Les sous-marins, les porte-avions américains sont obligés de repartir la queue basse parce qu'ils ont pris des coups des missiles hypersoniques.
Eh oui.
Et nous, c'est pour ça que les sous-marins ne sont plus, peuvent être détruits en 2 minutes par des missiles hypersoniques. C'est pour ça que je n'ai toujours pas compris la décision de Macron de faire un nouveau porte-avions, engager 10, 12 et peut-être seulement plus 15 milliards en plus d'un porte-avions qui sera dépendant des Américains, puisque, par exemple, on a plusieurs choses qui dépendent des Américains, parce qu'on a vendu quand même 1608 entreprises critiques, c'est-à-dire qui sont importantes pour la défense, aux Américains, oui. Macron.
C'est scandaleux.
Je rappelle juste que j'avais fait, moi, en 2011, un rapport sur les entreprises critiques françaises, qu'il fallait surtout pouvoir ni aux Russes, ni aux Américains, ni aux Chinois. C'était d'ailleurs, j'avais mon co-rédacteur, était Gérard Larcher. Ça a eu beaucoup d'influence chez les entreprises, ça a eu d'influence médiatique. Et bien maintenant, je peux vous dire, avec les 1608 et qu'on continue à vendre aux Américains, la défense et la France est complètement dans les mains des Américains. Je vous rajoute une chose aussi. La souveraineté numérique est le plus grand sujet. Eh bien, vous savez, moi, je me souviens à l'époque, quand on travaillait avec l'ANSI, il fallait même pas prendre Gmail, parce que Gmail, ça appartient à NSA. Eh bien, vous savez qui assure la sécurité informatique maintenant, la sécurité numérique de la ministère des Armées, du ministère de l'Intérieur et de la DGSI. La DGSI, c'est Palantir, une société de la CIA. Et du ministère des Armées et du ministère de la Défense, et du ministère des Intérieurs, c'est une société qui s'appelle Tanium, qui dépend de la CIA. Et moi, je me souviens à l'époque, quand on avait des réunions avec les Anglais, dans le cadre des accords de Lancaster, on était très fiers parce que nous, on savait que nos codes nucléaires n'étaient pas chez les Américains. Ceux des Anglais y étaient. Et maintenant, je me pose la question.
Ah oui.
Quand vous voyez que ce sont les Américains de la CIA qui assurent notre sécurité numérique. Mais c'est fou. Ah.
Chers auditeurs d'Adéro-Courtoisie, nous allons vous passer un message et ensuite reprendre cette passionnante conversation.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Une question d'un auditeur vient de nous arriver, monsieur. Parlez-nous des menaces nucléaires de Trump contre l'Iran.
J'ai beaucoup peu d'informations. J'ai des informations un peu contradictoires. La première fois, au début de la guerre, on sentait que Trump était prêt à, surtout quand il a vu qu'il avait des difficultés, était prêt à utiliser le nucléaire. Et en même temps, ses proches me disent qu'il a très peur que les Israéliens, enfin que le gouvernement Netanyahou, pas les Israéliens, parce que moi je coupe bien les Israéliens du gouvernement Netanyahou, puissent, parce qu'ils ont du nucléaire, on parle de 60 à 400 bombes nucléaires, et puis pas les bombes nucléaires d'Hiroshima, beaucoup plus puissantes, qu'ils envoient donc le dos au mur, Netanyahou envoie une bombe nucléaire. Voilà, c'est les seules informations que j'ai. Il est très difficile dans ce domaine-là d'avoir des informations très précises. On n'a que quelques échos. Il n'y en a peu que paraître ces échos-là, mais ce n'est pas des certitudes.
Oui, oui, espérons que nous avons des personnes raisonnables à la tête de ces États, parce qu'il y a des limites à ne pas franchir.
Il y a d'autres messages.
Oui, c'est toujours Jean-Denis qui intervient. Trump menace l'Espagne de suspension de l'OTAN pour son refus de participer à l'aventure iranienne. Il a ajouté que l'attitude des autres membres serait évaluée. On verra bien si le complexe militaro-industriel américain renonce à ses clients pour sa ferraille peinte en kaki et hors de prix.
Bon, voilà. Entre nous, c'est la même chose qui pourrait arriver que l'Espagne quitte l'OTAN et que nous, on se débarrasse de l'OTAN. Pour l'Europe, pour que l'Europe devienne indépendante et retrouve un peu sa puissance qu'elle avait connue à l'époque par le biais des différents pays, la meilleure des choses, c'est que l'OTAN ne soit plus disparaisse ou qu'il y ait un OTAN européen. Voilà, oui. Mais surtout pas continuer comme ça. Enfin, c'est un bureau de Washington qui décide ce qu'on doit faire. C'est un bureau de Washington qui valide les commissaires européens. Alors personne ne le sait, personne ne vous dira, mais c'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Et,
pas d'autres questions pour l'instant.
Et alors, que pensez-vous justement du risque de crise économique mondiale qui semble être une épée de Damoclès sur l'ensemble du monde si le blocage du détroit d'Ormuz perdure au-delà des 2-3 prochaines semaines, en fait?
Alors, moi, je ne suis pas un économiste, mais par exemple, sur la France, j'écoute Toiti, qui est un type très intelligent, ou d'autres d'ailleurs, il n'y a pas que Toiti, il y en a plusieurs, hein, des grands économistes qu'on ne fait pas d'ailleurs passer, qu'on ne fait plus placer dans les médias mainstream, qui est très inquiet pour la France. Hein. Il considère qu'on est à la... Moi-même, je connaissais quand même, parce que je suivais ça, la dette de la France, la façon dont on a augmenté presque de 58 milliards au dernier budget, le prélèvement sur les Français. D'ailleurs, chaque Français se rend compte que son salaire est ponctionné. On est dans une situation, et ça c'est vraiment Macron et Colère, c'est pas le maire comprenait rien, il était juste là pour valider les bêtises de Macron et de Colère, mais qui ont plombé le pays avec ses dépenses complètement folles. Je prenais les 80 milliards à l'Ukraine, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Je prenais également, on a augmenté en 3 ans de 90 milliards les recrutements de fonctionnaires, mais attendez, mais le fonctionnement de l'État, 90 milliards de plus, déjà on est un État qui est énorme. Le nombre de structures qui existent, on estime à 80 ou 100 milliards sur les plus de 1000 structures qui existent, qui ne servent pas à grand-chose, qui servent simplement à placer des gens. Mais c'est incroyable, si vous voulez. Ou le nombre d'argent qui est parti dans les entreprises sans qu'on sache à quoi cela a servi. On a vraiment... Alors qu'il faut bien imaginer que chaque année, on a 1345 milliards ou 1400 milliards qui rentrent. On a largement de quoi financer tout. Aussi bien notre défense que l'éducation, sauf qu'on dépense énormément sur des choses qui ne
présentent pas d'intérêt.
Qu'on pourrait dire de ne pas avoir d'intérêt.
Voilà.
Moi, j'étais surpris quand Bayrou était Premier ministre, il dit on ne peut pas toucher à l'Europe, on ne peut pas toucher... Attendez, l'Europe n'a jamais eu de déficit. Et puis là, depuis qu'avant les yens, on a même 1000 milliards de déficit, et ça va augmenter. Donc ce qui fait que la contribution française va augmenter. Mais non, pourquoi? C'est eux qui ont fait des erreurs. Hein, c'est Thierry Breton avec Van Leyen et tous ces gens-là qui nous donnent toujours des leçons tous les jours, qui ont en fait mis en déficit la Commission européenne, l'Europe, qui était vraiment, elle, n'avait pas de dettes. Là, maintenant, 1000 milliards et ça va faire commenter. C'est ça qui est là où on se rend compte, si vous voulez, qu'en plus de ça, si vous voulez, le budget européen est complètement sous emprise des décisions de quelques fonctionnaires à Bruxelles.
Oui.
Et ça aussi, c'est un problème. C'est là où, si vous voulez, on se rend compte, si vous voulez, que on a voulu faire l'Europe, moi j'étais pour, je suis un très grand européen, mais en même temps, il faudrait peut-être faire l'évaluation du dérapage de la Commission européenne par rapport à cette volonté de faire l'Europe, et puis les dégâts que nous font cette Commission européenne, hein, sur l'énergie. C'est complètement fou. On a, nous, le nucléaire qui est le moins cher du monde, pratiquement, on est obligé pour rentrer dans un processus d'accord européen. C'est surréaliste ce qui se fait actuellement au niveau énergie. Surréaliste. Et le problème, c'est que vous avez la logique, c'est que vous avez des gouvernements européens qui se succèdent. Je ne parle pas de Macron depuis 9 ans, parce que ça, c'est terrible. Des gouvernements pro-européens qui, en fait, n'ont pas le courage, si vous voulez, de dire, attendez, non, la France existe, on veut continuer à faire l'Europe. Mais comme le disait d'abord Robert Schuman, comme le disait d'ailleurs Jean Monnet, l'Europe, c'est d'abord des nations qui s'entendent. Je viens parce que quand je suis arrivé dans mon parti, c'était le parti de Robert Schuman. J'ai pas connu Robert Schuman, j'étais trop jeune. Mais j'ai beaucoup d'amis qui avaient connu Robert Schuman. Ils m'ont tous dit, mais Robert Schuman, il a voulu faire l'Europe. Il voulait qu'on crée la phrase de son accord, de la solidarité concrète, notamment l'énergie, puisque la CECA, ça a été ça. Mais il ne voulait surtout pas, si vous voulez, que l'Europe soit dirigée par des fonctionnaires. Et il disait, c'est les nations qui doivent rester, c'est elles qui doivent continuer à diriger l'Europe. Or, ce n'est plus le cas. Les nations qui se retrouvent théoriquement au Conseil européen des chefs d'État, qui devraient diriger l'Europe, sont complètement impuissantes devant la Commission européenne qui tous les jours, prend des décisions qui sont contre les traités. Et personne ne leur dit rien.
Et alors, justement, ce complexe militaro-industriel... dénoncé par Eisenhower, n'est-ce pas en fait un keynésianisme déguisé? Parce que finalement, elle est très keynésienne, l'économie américaine. Quand on voit que de 1000 milliards, on va peut-être passer à 1500 milliards de dollars pour la défense, C'est une locomotive d'investissement public qui est en réalité une façon de continuer à maintenir à flot une économie industrielle américaine.
Oui, il faut bien faire référence d'abord à l'armée fédérale américaine. D'ailleurs, quand elle est arrivée en 2017 en Europe, elle s'entraînait avec des fusils de bois, pratiquement. En 1930, l'armée américaine, c'était 70 000 hommes avec des fusils. Il y a simplement eu quelqu'un d'intelligent qui était Roosevelt, qui a compris que, alors que les États-Unis étaient, ne voulaient surtout pas rentrer en guerre, qui a compris qu'ils seraient obligés d'aller en Europe à cause de la folie d'Hitler. Et qui a commencé, si vous voulez, à réorienter l'économie industrielle américaine vers l'armement. Et on pense d'ailleurs qu'il a laissé faire perdre l'Arbor pour avoir une raison d'impliquer l'opinion publique américaine dans cette guerre.
Et intensément d'ailleurs, parce que ça s'est fait très rapidement.
Et à partir de 1942, par exemple, vous avez des usines de voitures, par exemple, ne sortaient plus aucune voiture. Elles ne sortaient que des jeeps, que des chars, que des choses comme ça. Et quand le... Alors, j'ai jamais réussi, j'avais écrit un livre, un projet de livre, il y a une quarantaine de pages qui sont très cadrées, mais jamais fait paraître, ni terminé. Quand j'ai terminé le Sénat, parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, les Américains, c'était en fait des commerçants. C'est ça, la politique internationale américaine, c'est une politique de commerçants. Et là, en 1945, il faut bien savoir que le PIB américain dépendait, alors je n'ai pas réussi à sortir le chiffre, de 70 à 80, peut-être même 60%, dépendait du complexe militaro-industriel. Et dans ce complexe, alors après ils sont lancés dans les voitures, ils sont revenus, mais ce complexe, on ne pouvait pas le supprimer comme ça du jour au lendemain. D'où cette stratégie de puissance des Américains, qui ont voulu vendre des armes partout. Et ces guerres, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, a été quelque chose de génial pour le complexe militaro-industriel. Et moi, je me souviens très bien, quand j'étais à l'UO, on est allé voir les Lockheed en Californie. Mmh. On était plusieurs parlementaires européens. Enfin, moi, j'étais français, mais il y avait des Anglais, tout ça, et notamment les Anglais. Et les Américains sont très habiles. C'est que quand ils lancent, par exemple, un projet, par exemple, Lockheed, pour lancer le projet de leur avion actuel, là, qui n'est pas si bon que ça par rapport... à l'avion français, d'ailleurs.
F-35.
Le F-35, oui. Justement, j'étais allé à l'époque voir comment ça se faisait.
Qui est une catastrophe, en fait.
Oui, et puis ils ont mis des milliards. Et là, ils avaient piégé chacun des pays. Et ils disaient à chaque pays, d'accord, vous êtes partenaire. Et je me souviens très bien, à l'époque, l'UO existait encore, on a eu une réunion avec les patrons de Lockheed, et il y avait les Anglais qui étaient furieux, parce que les Anglais avaient mis beaucoup d'argent dans cette affaire. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et il y a eu une scène, mais d'une violence terrible, entre les parlementaires anglais et les dirigeants de Lockheed. C'est nous qui finançons et on ne peut pas savoir ce qui se passe. C'est incroyable. Mmh. Et c'est là où on a compris à quel point les Anglais, les Américains méprisent un peu tous les autres et les utilisent comme des larbins. Enfin, c'est incroyable. Et là, cet avion, je me souviens encore, à l'époque, il y avait le directeur des relations publiques que j'avais connu en France, qui était à l'époque le responsable de l'ambassade, et qui me dit, vous savez, nous, le problème qu'on a, c'est déjà, il y a quand même presque 15 ans, le problème qu'on a, nous, les pilotes, c'est d'éviter que, si vous voulez, qu'il n'y ait plus besoin de pilote. Il est déjà dans la logique de l'IA où les avions sont conduits sans pilote. Et donc, tout notre problème est de garder les pilotes dans cette construction des F-35.
Et alors, justement, cette logique militariste à sous-bassement économique et commercial n'est-elle pas de nature, finalement, de proche en proche, à provoquer une troisième guerre mondiale?
C'est évident. Quand vous faites des armes, on les utilise. Alors, pour le moment, depuis 1945, les Américains ont fait tout un tas de guerres. Ils ont eu la chance d'avoir l'Union soviétique en face. Donc, ils avaient un argumentaire facile par rapport au narratif. Dire, il faut combattre les communistes, ce qui s'est passé en Vietnam. Mais enfin, ce qu'ils ont fait, c'est quand même des crimes de guerre terribles, des crimes contre l'humanité en Vietnam. Hein, quand on pense les bombes au napalm et tout ça, enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et puis après, toutes les guerres qu'ils ont faites, partout. En Afghanistan, mais c'était... Qu'allait faire, c'est un pays incontrôlable. Même les Russes étaient cassés les dents dessus pendant 10 ans. Là, on y va. Et uniquement pour faire fonctionner des armes que le complexe vendait. On savait très bien qu'on n'arriverait à rien.
Et alors, là, on est devant un horizon tout de même assez dramatique. Parce que si Hormuz et le détroit d'Hormuz restent bloqués un mois, deux mois, trois mois... On est sûr d'avoir une crise économique financière mondiale très grave.
La crise commence, on le voit très bien, nous en France, ça commence. En même temps, si vous voulez, il y a cette rencontre qui est programmée, je crois, le 13 mai ou je ne sais plus quel jour, entre Trump et la Chine. Et d'après moi, ça peut-être faire évoluer les choses. Parce que Trump va là-bas, pas en Chine. Moi qui annule le voyage, puis au moment, ce n'est pas prévu. Donc, les choses peuvent... Je ne dis pas que ça peut s'arranger, parce qu'en même temps, lui, il est quand même embêté, même s'il est à fond avec, pour soutenir Netanyahou, il est embêté par ces mi-termes qui arrivent. Et il en sent le danger, mais voilà. Sérieusement, je ne sais pas. Mais vous avez raison, la crise économique qui se profile s'embête une crise, pas uniquement par le détroit d'Ormuz aussi, mais qui touchera d'ailleurs plus l'Europe que le reste du monde, d'après moi.
Oui, mais avec les progrès de la mondialisation des 30-40 dernières années et les interconnexions à l'échelle globale, le problème, c'est qu'il n'y a plus les cloisons étanches qu'il y avait, par exemple, en 1929.
Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, si vous voulez, le monde des BRICS, c'est un monde qui est plus indépendant que l'Union européenne et que l'économie. Ils ont une puissance économique, ils ont leur propre marché.
Oui, mais vous avez vu les engrais. 35% du ravitaillement en engrais de la planète est bloqué dans le Golfe Persique. 35%. Les BRICS seront les premiers à connaître des famines si ces engrais ne sont pas débloqués.
En sachant simplement que cette logique de sanction ou de blocage, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est Serge Dassault qui était sénateur avec moi, avait raconté qu'il avait vu Shimon Peres, qui était le président à l'époque d'Israël, et qu'il avait dit, grâce aux sanctions que la France a mises sur plusieurs choses, on a pu devenir une grande puissance industrielle. Ouais. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Russie, par exemple. La Russie était une puissance qui travaillait au niveau agricole qui n'existait pas. Et grâce aux sanctions que l'on a mises, maintenant, elle est devenue une grande puissance agricole. Enfin, pas uniquement sur le blé, mais elle fait tous les produits que l'on lui vendait maintenant.
Alors justement, je m'excuse de vous couper, un message toujours de Jean-Denis qui l'intitule « Enfin la bonne décroissance tant chérie des écolos ». Alors je vous lis son message. « Nous n'avons encore rien vu des conséquences de l'attaque israélo-américaine sur l'Iran pour l'industrie européenne. Les produits dérivés du pétrole et du gaz sont indispensables à l'industrie et à l'agriculture. En particulier, nous allons être privés d'acide sulfurique et d'hélium, ces sous-produits étant indispensables pour la production métallurgique, les semi-conducteurs, les engrais. Cette liste est loin d'être exhaustive, c'est en fait l'Europe qui va retourner au char à bœufs des Mérovingiens. Quant au blé européen, on pourra toujours en faire des bouillies car il sera impropre à faire du pain et des pâtes. Déjà, nos génies écolos et notre bon gouvernement nous apprennent la sobriété, le puissant remède contre la pénurie.
Non, c'est humoristique, mais il n'a pas tort sur le fond. L'acide sulfurique, c'est aussi un gros problème, c'est la Chine qui contrôle. Il n'a pas tort. J'ai pas suffisamment la maîtrise des choses pour prévoir ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'on est c'est un moment difficile et qui risque d'être difficile pour la suite au niveau économique mondial. Mais j'ai tendance à penser que les pays des BRICS, hein, je vois que ce soit l'Indonésie, que ce soit le Brésil, que ce soit la Chine, l'Inde, la Russie, sont des pays qui économiquement vont très bien.
Mais oui.
Hein, la Russie, moi j'ai des amis français qui reviennent, qui vivent là-bas, ils me disent, mais à Moscou, on ne trouve plus une place dans les restaurants, ils n'arrêtent pas de s'ouvrir, enfin, il n'y a que des grosses voitures de berline partout. Enfin, il y a vraiment, on n'a jamais connu Moscou aussi riche. Enfin, il y a que notre ministre des Affaires étrangères qui peut penser que les sanctions, ou Kajaskalas, enfin, cette hystérie qui est à la Commission européenne et qui est fasciné par la russophobie, peut penser que les sanctions sont utiles. Elles se retournent contre nous.
Exactement.
Alors ça pose des gênes peut-être pour quelques oligarques russes, j'ai toujours le mot. Mais sérieusement, les sanctions, c'est plutôt l'Europe qui en paie les conséquences.
Absolument.
Plus on les augmente, plus ça se retourne contre nous.
Vous avez évoqué ces nombreuses entreprises agroalimentaires.
Donc c'était terrible, et puis ça continue.
Et ferme, ça continue.
Alors, effectivement, la crise du Moyen-Orient semble hors contrôle, si on peut dire. Est-ce que Xi Jinping va arriver à imposer en quelque sorte un modus operandi aux Iraniens, et sachant que Trump lui-même a des exigences tout de même démesurées, apparemment, sous l'influence des Israéliens. Donc l'ajustement entre les deux camps semble extrêmement problématique. On peut même se demander si les hostilités ne vont pas reprendre à un moment donné. Cette nuit, Trump a dit qu'il prolongeait de 3 semaines le cessez-le-feu. Et on voit bien qu'il est très embêté, qu'il ne sait pas comment se
sortir. Il faut bien comprendre que le discours de Trump, d'abord, est un discours pour Netanyahou. Et c'est un discours pour ce qu'on appelle son réseau MAGA. Et donc, c'est maintenant, à l'époque, c'était plutôt le même discours, sauf que maintenant, il est obligé d'avoir un discours différent pour MAGA et pour Netanyahou.
Et oui.
Et c'est pour cela, si vous voulez, que vous avez ces discours un peu excessifs. Mais vous avez tout à fait raison, ça ne veut pas dire parce qu'il est obligé de faire des discours un peu différents et pour les MAGA et pour Netanyahou, que cela va pouvoir arranger les choses. Mais en même temps, je ne sais pas. Sérieusement, on est dans une mauvaise passe. On a surtout un président qui est fragilisé. Moi, je pensais que Trump serait beaucoup plus solide et je suis profondément déçu de ce qui se passe, de cette emprise qu'il a sur lui. Et sérieusement, je ne peux pas dire. Tout est possible. Hein. Le monde est quand même à une croisée de chemin. Mais en même temps, si vous voulez, vous avez quand même des grands pays qui ne sont pas dans une logique guerrière, même la Russie, son président, la Russie est allée en Ukraine, on ne peut pas la soutenir, cette affaire. Mais en même temps, si la Russie est allée en Ukraine, c'était quand même, ça faisait 15 ans que les Américains n'arrêtaient pas de oui. déstabiliser l'Ukraine contre la Russie. Hein.
C'est
même,
ça.
Que je dis 15 ans, même avant. Parce que cet été, j'ai vu des amis ukrainiens, d'ailleurs, des gars ukrainiens qui m'ont dit, bien sûr, les Américains, bien avant l'an 2000, étaient déjà en Ukraine pour préparer ce qu'ils ont fait à Maïdan.
Voilà. Toujours la même.
Ça faisait partie de la stratégie. D'ailleurs, dès 45, je crois que c'est Kissinger qui m'a dit ça. Dès 45-46, ils avaient décidé de prendre l'Ukraine comme lieu de déstabilisation de la Russie. Ils avaient arrêté d'ailleurs, ils avaient déjà envoyé des gens de la CIA, me disaient-ils, déjà en Ukraine à l'époque. La CIA avait déjà investi là-bas et ils avaient arrêté quand Khrouchtchev était arrivé, parce que c'était ukrainien, et puis quand Khrouchtchev était parti, ils avaient recommencé.
Oui.
Donc ils ont envoyé beaucoup de gens, ils ont fait un travail, c'est fait de service.
D'ailleurs, Brzezinski avait. Dans le grand échiquier, bien montré que la Russie, l'Ukraine, c'était vraiment la pièce
bien sûr.
Centrale pour déstabiliser
voilà,
la Russie.
Voilà.
Et il y a encore un message d'auditeur.
Toujours Jean-Denis. Les manœuvres prévues cet été au-dessus de la Baltique entre Français et Polonais, avec simulation de tirs nucléaires sur la Russie et la Biélorussie, ne constituent-elles pas une faute majeure politique et une transgression gravissime de la doctrine de dissuasion dans laquelle l'arme nucléaire n'est pas utilisée qu'en représailles et non pas pour une agression ? De telles manœuvres posent un risque majeur dans l'état technique actuelle qui impose des délais de réponse extrêmement brefs face à une menace nucléaire et ne devrait-elle pas faire l'objet d'un accord du Parlement ? D'autre part, n'est-il pas aberrant de laisser toute liberté à la présidence pour des opérations militaires durant 3 mois alors que les guerres directes se règlent en fait en quelques semaines, voire quelques jours ?
C'est d'abord sur le Parlement, il faut bien comprendre qu'on est en guerre contre la Russie et que jamais l'article 35 n'a été appliqué. Là, il y a une responsabilité terrible du Parlement.
Mmh. Eh oui.
Deuxièmement, on a envoyé, je vous ai dit, à peu près, on estimait à 80 milliards d'argent. Enfin, c'est l'Institut Kiel qui estime à 80 milliards de l'argent envoyé en Ukraine. Jamais l'article 53 n'a été appliqué. Une seule fois, il y a eu une réunion sur l'article 53, mais sans vote. Mais le Parlement français, actuellement, n'est plus un Parlement. Enfin, il n'est même pas capable de faire appliquer c'est le minimum de pouvoir sur ce qui le concerne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'allait pas soutenir la guerre en Ukraine, mais il fallait l'appliquer. Deuxièmement, que les Européens aient des exercices, moi ça ne me choque pas, hein, tout à fait normal, que face à la Russie, même si je trouve que c'est un fantasme de considérer que la Russie veut s'intéresser à l'Europe, elle est juste dans cette affaire ukrainienne, mais ça ne me choque pas qu'il y ait des opérations militaires, des entraînements et tout cela. La chose, vous avez raison, je crois d'ailleurs dans la note de cette personne qui pose la question, c'est vrai, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose de jouer sur le nucléaire. Mais en fait, l'Europe est tellement affaiblie que c'est la seule chose qui lui reste. C'est peut-être pour ça qu'il fait ça, je crois. Mais ce n'est pas choquant, si vous voulez, qu'il y ait des exercices. Attendez, on est quand même indépendants. Hein.
Oui.
Des exercices de militaires français, polonais, qu'il y ait des concertations entre nous, tout ça, non, est plutôt même positif. Je veux dire. Là, le point faible, peut-être, c'est aussi... Alors, il faut que je vérifie. C'est, comme le dit la personne qui interroge, c'est peut-être l'affaire, est-ce qu'on a intérêt à toucher au nucléaire voilà.
Alors, effectivement, l'horizon est sombre, tout de même.
Non, on a connu, vous savez, rappelez-vous quand même les périodes qu'on a connues. On a connu, à l'époque, la tension qu'il y a eu sur l'affaire de Cuba. Moi, j'étais tout jeune. La tension qu'il y a eu sur les guerres, il y a eu beaucoup de... On a quand même connu beaucoup de tensions. Il y a eu... Moi, je considère que le monde est comme ça. Et puis surtout, quand on se rappelle la guerre 39-40, enfin, ce qu'on a connu, c'est affreux. Le XXe siècle a été une guerre européenne, d'ailleurs, qui a été l'Europe, qui était soi-disant le continent des valeurs, c'est quand même elle qui a été à la base du communisme et du nazisme, qui ont quand même provoqué ces deux énormes guerres qui étaient un massacre, mais terrible, enfin, qui était le génocide des Juifs, est terrible ce qui s'est passé. Enfin, et c'est les pays européens, les pays qui, soi-disant, sont les porteurs des valeurs humaines.
Absolument.
Et là, je crois que l'Europe a une responsabilité. Le XXe siècle a été même si l'Europe après a réagi, l'Europe a été quand même la structure démoniaque du XXe siècle. Hein. Ces deux communisme et autres, sont partis de l'Europe. Elles sont pas parties.
Première moitié du XXe siècle.
Plus que la première moitié. Après, le deuxième siècle, elle s'est rattrapée. Oui, mais oui, c'est quand même ces deux guerres. Enfin, c'est...
Oui, oui.
Et ça, je crois que c'est un point important. Alors, là, évidemment, il y a des tensions. Moi, j'ai toujours connu qu'il y avait des tensions. Il y a des périodes beaucoup... On a quand même connu des périodes plus fastes, hein, les 30 Glorieuses et autres. Mais... C'est le monde qui est comme ça. Hein. C'est le monde qui est comme ça. Et je crois surtout qu'un des problèmes, d'ailleurs, vous avez fait allusion à Epstein. Et c'est l'affaire d'Epstein, moi, je n'aime pas trop y mettre dedans parce que c'est tellement sordide, certaines choses. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'analyse politique, c'est qu'on se rend compte, si vous voulez, que vous avez des gens comme Epstein, que le pouvoir n'appartient pas à la démocratie. Ce qui ressort d'ailleurs, et je pense d'ailleurs que les Sciences Po, enfin, les structures Sciences Po universitaires devraient s'intéresser à ça. Parce que là, on se rend compte, en fait, que le véritable pouvoir du monde, en fait, c'est la finance, c'est d'autres personnes que les gens qui sont vraiment au pouvoir.
Et c'est celle qu'on ne voit pas.
Et on le voit très bien dans la réflexion de tout ça. Et ça, si vous voulez, c'est la leçon Epstein. Alors, évidemment, tout à l'heure, la question était de savoir si Trump bloquait l'apparition d'Epstein. Il semble que manifestement, oui. Est-ce que ça le concerne? Est-ce que ça concerne tes amis? Est-ce que c'est tellement explosif? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais par contre, je trouve que vraiment, là, ça a été une révélation, enfin, que l'on connaissait. Quand on connaît le pouvoir politique, on sait très bien que les décisions sont prises ailleurs que dans les structures politiques, que le Parlement n'est que le relais de décisions qui sont prises ailleurs. Pareil. Voilà.
Eh bien, cher Yves Pozzotti-Borgo, nous arrivons au terme de notre émission, hélas, mais nous en ferons d'autres.
Merci,
si vous avez bien.
Merci beaucoup. Merci à Claudia pour la réalisation et à Martine pour la prise des nombreux messages.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à bientôt.
Merci, merci à vous.
Vous venez d'entendre le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis. Assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 24 avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.